Sans cliché, une enquête sur la disparition du rock'n'roll. Lue par Pierre Mikhaïlov sur Rectangle. Cliché 13. Le mur du son. Bande son. Slow Death par les Flamingroovies. J'avais donné rendez-vous à un vieil ami dans ce bar où nous avons nos habitudes, près du passage de la Main d'Or. Nous avons fait ce que nous faisons toujours en pareil cas, boire, évoquer l'avenir du rock'n'roll, car il y a encore des gens pour se soucier de l'avenir du rock'n'roll, et spéculer sur les chances de voir une fille franchir le seuil de la porte. Après tout, si nous avions été capables d'arriver jusqu'ici, pourquoi pas des bataillons de filles mâchant du bubblegum? Mais passé une certaine heure, il faut remettre ce genre d'espoir au lendemain. C'est le moment de se dire que la vie réserve bien d'autres plaisirs. C'est le moment aussi de se tourner vers le fond de la salle et de se rapprocher du vieil homme silencieux. Celui qui vient tous les soirs et se tient toujours à la même place. Ce n'est même pas un buveur, non. Son allure peut paraître étrange, il est chaussé de boots sans daim, sa veste scintille légèrement, et il raconte des histoires qui ressemblent à la mémoire d'un peuple disparu. Hello, homme sage aux boots pointus. Quelle histoire nous racontes-tu ce soir? Lui lançons-nous en s'asseyant à sa table. Eh bien ce soir, avant que vous n'arriviez, je songeais justement aux Flamingroovies, à leur discographie revigorante, à leurs vices, à leurs amours, aux légendes qui les entourent. Comment ça, les légendes qui les entourent? Le mot n'est-il pas un peu fort? Autant commencer par là, oui. Eh bien détrompe-toi, elles abondent. L'une d'elles porte sur la naissance de Cyril Jordan, le fondateur et l'âme des Groovies. On murmure qu'il est le petit-fils d'une Californienne fortunée, une femme généreuse, qui le soutint tout au long de sa chaotique et peu lucrative carrière. En un mot, il ne fait pas partie de ces rockers qui envisagent la musique comme un moyen d'ascension sociale, ce que semble confirmer l'ambiance esthète dilettante qui caractérise son groupe et qui séduit ou agace, selon le caractère de chacun. Une autre rumeur, contradictoire, affirme qu'il menait, afin de subvenir à ses besoins, une carrière parallèle de dessinateur chez Walt Disney. Ce qui est plausible, car c'est un illustrateur doué. On peut se rendre compte ici ou là que l'homme est doté d'un coup de crayon à la Max Fleischer, le créateur de Betty Boop. D'accord pour les légendes. Mais vous avez évoqué leurs vices également. Quels étaient-ils, par exemple? Que buvaient-ils? La consommation d'alcool n'est pas un vice, mais je vais néanmoins te répondre. Parlons de Mike Wilhelm, ce merveilleux guitariste. Celui qui joua avec les Charlatans dans les 60s à San Francisco, n'est-ce pas? Celui-là même. Eh bien, n'a-t-il pas l'allure du parfait buveur de Bourbon, avec son visage carré, ses traits rudes de paysan du Middle West? Cyril? Son allure de grand nerveux trahit le buveur de Heineken, le genre de type à préférer une bière légère pour garder l'esprit clair et prendre du speed. Quant à Danny Mim, leur premier batteur, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer, j'ai constaté qu'il gardait toujours une bouteille de gin au pied de sa grosse caisse, à portée de main. Un homme prévoyant, en quelque sorte. Passons au sexe, maintenant. Voulez-vous? Vous n'êtes pas homme à abuser de la litote, je le sais. Aussi, je brûle de vous entendre. Ah, les groovies et les femmes. On sait peu de choses à ce sujet. Mais je ne les imagine pas avec des régulières. Ce groupe n'a jamais gagné beaucoup d'argent. Toujours sur la route ou en studio. Comment aurait-il pu posséder un foyer digne de ce nom, avec téléviseur, chien, parterre de fleurs et enfants? De plus, il n'y a pas de sexe symbole parmi eux, comme tu as pu le constater. Va retenir une femme avec de tels handicaps. Et de votre côté, tout va bien, hasardais-je? Cesse de m'interrompre, petit insolent. Désolé, bon. Mais n'ont-ils pas au moins su profiter des nombreuses groupies défoncées qui hantent les coulisses des concerts de rock, tels les zombies des films de George Romero? On voit que tu ne sais pas de quoi tu parles. Apprends que les groupies sont séduites par deux choses. Le succès, qu'ils ne rencontrèrent jamais, et le sexe à pile. Et là, franchement, avec leur calvitie naissante et leur corps malingre, les groovies n'étaient pas les mieux placés. Mais à la fin des 60s, sur ces vieilles photos, ils ont l'air plutôt mignons, non? J'imagine que les collégiennes américaines. Tu oublies un peu vite que nous parlons d'un groupe de San Francisco, et que nous sommes, comme tu le mentionnes fort à propos, dans les années 60. Tu peux te représenter à quoi ressemble San Francisco à la fin des années 60. Vous voulez dire rien que d'afro-hippies partout? C'est cela même. Imagines-tu un flamin groovy sortant avec une grosse hippie en robe à fleurs qui a cessé de prendre des bains depuis le Summer of Love de 67 et qui passe ses soirées à réciter des poèmes d'Allen Ginsberg, dans le meilleur des cas? Certes non, quelle horrible vision, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas fini. Abordons un autre sujet, les groovies et la France. Comme l'Angleterre, la France nourrit en son sein quelques hommes de goût, cultivés et clairvoyants, dont je m'honore de faire partie, qui ont toujours su réserver l'accueil qu'ils méritaient aux artistes américains trop subtils pour leur terre d'origine. Je vois. Vous voulez parler de gens comme Moon Martin, Captain Beefheart, Willie DeVille, Johnny Thunders, Lou Reed, Iggy Pop? Mais cela me revient. Il y a ce fameux et mystérieux épisode du concert des Groovies dans un centre commercial de la région parisienne en 72. Le concert de Créteil du 2 novembre 72? Celui-là même. Tu as sans doute déjà vu ces photos, au hasard d'un vieux magazine ou d'une compilation, où on les voit jouer sur une scène étroite, sous une tente dont le plafond est à quelques centimètres de leur tête. Elles furent prises ce soir-là. Ils avaient été engagés pour animer la fête d'inauguration du centre commercial de la ville nouvelle de Créteil. Rassure-toi, quelques rock critiques et des représentants de la punkitude parisienne s'étaient déplacés. J'en étais. En revanche, qui saura jamais ce qu'on pensait des Groovies, ces gens venus en famille profiter des promotions sur les canapés et manger une moule frite en contemplant le jet d'eau du Mail qui arrose un vasque de faux marbre qui, elle-même, déborde dans un bassin recouvert de céramique. Oui, quel étrange concert. Malgré tout, sur ces photos, ils affichent leur arrogance habituelle. C'est exact. On peut même avancer qu'à travers le temps et les épreuves, leur détermination s'est renforcée. Mais j'aimerais connaître votre avis sur cette violente polémique qui oppose pro et anti-groovies. D'un côté, des détracteurs qui les accusent de n'être que de simples fans, trop respectueux de leur modèle pour innover, qui jugent leur démarche stérile, passéiste, inutile et ennuyeuse. Et c'est vrai que cette dévotion maniaque à la culture du début des 60s est lourdingue parfois. Le son carillonnant des Birds, les groupes de la première British Invasion, la prise de son monophonique sont certes dignes d'intérêt, mais ne s'y intéresse-t-on pas pour les mêmes raisons qui nous faisaient jadis ouvrir notre livre de géographie, parce qu'il s'agit d'une matière au programme? De l'autre, des aficionados inconditionnels, pour qui les Groovies constituent l'incarnation ultime du groupe de rock'n'roll, et jouent une musique rare, pure et sauvage, ayant échappé aux outrages de la prise de son moderne. Des gens pour qui les Rolling Stones sont un groupe New Wave. Satisfait de l'effet produit par cette dernière assertion, je porte l'estocade au gang des Antilles en affirmant « À ceux qui nourrissent des doutes sur la validité du concept des Flaming Groovies, je répondrai en posant sur une platine Slow Death, Yeah My Baby ou Jumping in the Night. » Oui, n'importe lequel de ces trois titres. Et ce sont là des originaux. Je suis content que tu l'aies remarqué. Au cours de son histoire, le groupe a toujours compté en son sein un team de songwriters décent. S'il a toujours enregistré des covers, je constate que la plupart du temps, il a su leur donner un souffle que l'original ne possède pas. Il faut en finir avec ces groupes qui se croient obligés d'écrire leur répertoire de A à Z. Quel manque flagrant d'humilité! Ont-ils des choses si neuves à dire qu'elles n'aient déjà été couchées sur le papier par Lieber et Stoller? Bravo! Là, je suis d'accord avec vous, monsieur. Braille depuis le comptoir un ivrogne soudainement réveillé. Plus personne aujourd'hui ne sait tourner des trucs comme Hound Dog ou Bossa Nova Baby. Certes, mais ne m'interrompez pas, je vous prie. Il reste peu de temps, le bar ferme et je vais devoir conclure. Je lâche en guise de dernière question. Finalement, qui a tué les Flaming Groovies? Le mauvais goût ambiant. Par exemple, les Groovies n'étaient pas ce genre de groupe qu'on exhibe au Live Aid. Ils n'ont jamais cherché cette popularité. Ce qui a laissé toute liberté à Phil Collins, U2 et à leurs semblables de polluer le top 40 et les oreilles de plusieurs générations. Comment s'étonner que ceux qui ne connaissent de la musique que ce son mielleux et aseptisé continuent d'ignorer ce qu'est le rock'n'roll? Mais ne désespère pas. Tu sais aussi bien que moi que le style, le second degré et la classe ne font pas forcément recette sur le moment. Le serveur est déjà en train de balayer la salle, le temps nous est compté. Mais qu'est-ce qui aurait pu sauver les Groovies? Rien. Rien n'aurait pu sauver les Groovies d'eux-mêmes. Leurs qualités sont aussi leurs faiblesses. Mais le temps fait son travail. De splendides rééditions agrémentées de bonus tracks sont disponibles. Écoutons-les. Ceux qui découvrent leurs albums aujourd'hui ne comprennent pas comment on a pu leur cacher ça si longtemps. Ces garçons sont des héros. De dessins animés, certes, mais néanmoins des héros. Les cinq petits personnages rigolards sur la pochette de Super Snaz qui s'apprêtent à foutre un bordel monstre les résument bien. En un mot, et ce sera vraiment ma dernière question, on peut leur pardonner de venir de San Francisco ? On peut et on le doit. Il lève alors son vieux corps émacié et sans saluer personne, se dirige vers la porte. Je ne le trouve pas spécialement chaleureux ou sympathique. Pourtant, j'espère le revoir. À travers la vitre, je le suis du regard et j'en ai la confirmation. Sa veste scintille sous les néons. Troisième partie, le nouveau monde. Miss Anne a débranché le jukebox, elle est mariée et travaille à la Bourse de New York. Cliché 16. Paris est une fête. Bande son, Million Miles Away par les Plimsouths. Il y a environ un mois, un couple que je connais en réalité assez peu m'a invité à une soirée. Bien que conscient de commettre une erreur en acceptant, le jour venu, je sonnais à leur portail. En entrant, j'avisais une connaissance, Alice, qui semblait aussi égarée que moi dans cet environnement. J'allais la saluer avec l'élan du nageur perdu qui aperçoit une bouée de sauvetage au milieu d'un océan hostile. Après 2 heures passées à patauger dans un marigot hip-hop rap-funk, j'eus la surprise de reconnaître une chanson, Million Miles Away, des Plimsouths. Autant dire un ovni dans ce contexte. Ce qui clochait, c'était que la programmation des DJs semblait ne déranger personne. Au contraire, à chaque nouvelle intro, les danseurs humaient les premières mesures, souriaient d'un air entendu et retournaient suer sur la piste. Mais la musique n'était pas le seul problème ce soir. Il y avait aussi ce décalage entre mon absence de look et l'élégance suave des convives. Je n'avais pas vécu ces 6 derniers mois tapis au fond d'un igloo de Laponie. Pourtant, j'ignorais tout de ces treillis taillés dans des sacs poubelles et de ces t-shirts lacérés signés par l'avant-garde du stylisme japonais qui fleurissait autour de moi. Tous ces gens semblaient avoir compris comment passer du bon côté de la hype et se battaient pour y rester. À mesure que la soirée avançait, je sombrais dans une mélancolie seulement troublée par de rares plaisanteries échangées sans entrain avec l'un ou l'autre de ces beautiful people. Je remplis mon verre une fois encore, mais l'alcool ne pouvait rien pour moi ce soir-là. Je me tournai vers Alice et lus dans ses yeux qu'elle éprouvait le même sentiment d'abattement que moi. Elle ne faisait même plus l'effort d'entretenir la conversation. Elle avait déjà capitulé, jugeant sans doute vain de se mentir. Elle n'avait pas tort, il n'y avait plus rien à sauver. La soirée sombrait. J'avais misé sur l'effet euphorisant de l'alcool pour m'intégrer, elle, et c'était admirable, avait choisi d'affronter l'épreuve en restant sobre. Elle rompit enfin le silence qui s'était installé pour m'informer de son départ imminent. Elle salua et disparut, s'abstenant de recourir à l'un de ces prétextes éculés que l'on utilise en de telles circonstances pour se justifier. J'aurais peut-être dû en faire autant, mais j'ai préféré rester, faire front. La situation pouvait encore s'arranger. Par exemple, une fille pouvait surgir, se diriger vers moi, m'apostropher et, oubliant que je n'étais pas célèbre, décider de ne plus me quitter de la soirée pour profiter de mes remarques spirituelles. Ce genre de choses doit parfois se produire, même si, le plus souvent, on reste là à grignoter des cacahuètes. Ma main tremblait un peu quand je remplissais mon verre. À tort ou à raison, mes gestes me paraissaient plus maladroits encore que de coutume. J'allumais une cigarette et me concentrais, afin de me composer une de ces attitudes cool vues au cinéma, un air de dandy vaguement méprisant. Par tous les moyens, j'essayais de gommer les currantes sensations de vacuité qui m'envahissaient. Désormais seul, abandonné par le maître de maison qui ne venait même plus me demander de loin en loin si je m'amusais et se contentait de m'adresser des sourires à distance, livré à mes pensées, je réalisais peu à peu l'épaisseur de ce mur me séparant de toutes ces filles d'1m80 qui déambulaient avec grâce un verre de champagne à la main. Je me sentais dans la peau du garçon le plus oublié de la terre. Sur ma peau soufflait le vent glacial de l'anonymat. J'étais peu à peu devenu l'homme invisible de cette soirée. Et chaque fois qu'un nouvel arrivant descendait triomphalement l'escalier, cette impression se confirmait. Tous ces gens semblaient reliés entre eux par une sorte de toile invisible, une toile sur laquelle ils se déplaçaient avec aisance, contournant souplement ceux dont le nom n'était pas apparu dans la presse au cours des 6 derniers mois. Il était temps de prendre congé. Une fois dehors, l'air frais me fit du bien. Mais j'étais encore suffisamment désespéré pour entrer dans une gargote en train de fermer et commander un kebab. Quelques minutes plus tard, un serveur consciencieux me tendit un objet fumant et peut-être comestible accompagné de toutes les sauces réglementaires. Je m'en emparais et décidais de rentrer à pied. Tout en trempant mes frites dans la moutarde, j'essayais d'effacer ce malaise qui m'avait poussé à partir. Il me fallait trouver des raisons d'espérer, penser à quelque chose qui me ferait du bien, au rock'n'roll par exemple, à Gene Vincent, Little Richard, Brian Wilson, tous ces Perceval en quête de Graal. Et cela a marché. Je me suis senti mieux. J'ai réalisé que depuis un moment, une chanson m'accompagnait, comme une résonance lointaine, comme une réponse. « 10 million miles away ». Je n'étais même plus très sûr de l'avoir entendu au cours de la soirée. Mais cela ne faisait que confirmer une de mes théories, celle du jukebox rémanent. Depuis quelque temps, en effet, je soupçonnais que l'écho des chansons qui ont marqué notre existence continue de résonner à travers les galaxies, envoyé et amplifié depuis un relais jukebox intersidéral, actionné par John Lennon en personne, ou par Rob Tyner, le chanteur du MC5, quand celui-ci n'est pas disponible. Elles sont dans l'air, en suspension, et il suffit que votre antenne soit pointée dans la bonne direction pour qu'elle vous atteigne à nouveau et vous sauve la vie. J'allais mieux. J'ai jeté le kebab et me suis mis en quête d'une bière glacée. Je m'étais à peine assis sur une des banquettes de pierre du Pont Neuf pour la déguster que la silhouette d'une fille s'est dessinée au loin. À mesure qu'elle s'approchait, il se confirmait qu'elle avait de l'allure. Quand la distance se fut réduite au point de distinguer son regard, je constatais qu'elle me dévisageait aussi, avec une étincelle de curiosité. Peut-être ressentait-elle autant que moi l'envie d'échanger quelques mots, sans présager du reste. Mais je n'ai jamais su quoi dire à une inconnue dans la rue. Je l'ai donc simplement regardée s'éloigner. Mais il restait une lueur d'espoir. Il n'était pas impossible qu'un jour, les filles finissent par remarquer que mon côté outsider était furieusement attirant. Cliché 17. L'absence. Bande son. La ville, par Daniel Darc. Je ne l'ai pas vu depuis une semaine. Je m'interroge sur les raisons de son absence. De ce que je garde de toi, quelle est la part de réel, la part de fantasme. Les gens, les objets, laissent dans nos mémoires des traces confuses. À partir de ces traces, de ces repères, nous construisons des souvenirs idéaux. J'en arrive parfois à me contenter de ces souvenirs et à me passer de la réalité. C'est un peu comme regarder le monde à travers un morceau de verre dépoli. Les traces qu'elle a laissées sont les suivantes. Un foulard parfumé et une toile. Je les observe de loin, un peu méfiant, feignant le détachement, et commets ma première erreur. Je saisis le foulard et le respire. Je suis pris d'un vertige. Je respire encore. Ce parfum est davantage que des atomes et des particules. Mes théories matérialistes volent en éclats. Je sens autre chose, comme une présence. La persistance d'un corps et d'une âme. Il faut que je te revoie. Il faut tirer cela au clair. Je t'appelle. Je crois qu'il n'est pas trop tard. En tout cas, j'ai beaucoup moins peur. Je raccroche. Enfourche mon vélo et me dirige vers Bastille. Le mois de mars hésite entre le noir et blanc et la couleur. Cet après-midi, je me laisse surprendre par le retour de la lumière et je me sens bien. Un flot d'optimisme envahit les rues et me submerge. la rue du Faubourg Saint-Antoine déborde de vie. Je vais très doucement pour ne rien perdre du spectacle. J'aime l'humanité dans ces moments-là. Un piéton venant de la rue Trousseau traverse devant moi. Je veux le laisser passer, il me fait signe d'avancer. C'est Daniel Darc. Nous échangeons un sourire. Et ce sourire me bouleverse, j'ignore pourquoi. Hier encore, j'aurais écouté quelques-unes de ses chansons, j'étais ému, bien sûr. Mais ce n'était pas pareil. Ce n'était pas autant que ce sourire. Comment Daniel Darc a-t-il pu me toucher davantage par son sourire que par le fruit de son travail ? Rien de plus simple qu'un sourire, alors qu'écrire une bonne chanson nécessite un talent rare, un peu de chance, parfois même un peu de travail. Je viens de percevoir deux signes qui semblent indiquer que ma place est parmi les vivants. Ne pas négliger la vie, ne pas sous-estimer les vivants. Je me sens vraiment mieux. J'ai envie de m'arrêter, de descendre de mon vélo, de l'embrasser pour m'avoir sauvé la vie. Mais il a déjà disparu. Les anges n'attendent pas trois plombes que vous remarquiez leur présence. Il faut agir vite avec eux. Quand j'apprendrai la place qu'occupe à présent la spiritualité dans la vie de Daniel Darc, cela me laissera perplexe. Comme si tout avait un sens, ce sourire. Il a dû comprendre un truc ou deux que je refuse encore de voir. On ne peut pas nier le corps indéfiniment et le spirituel passe par le corps. Ils sont indissociables. Ce qu'a déclenché en moi cet épisode de quelques secondes me remue davantage qu'une sublime œuvre d'art. Et de quoi d'autre ai-je envie, sinon d'être remué ? Ainsi, il y aurait quelque chose d'irremplaçable dans la rencontre, aussi éphémère soit-elle, de deux personnes. Depuis, je n'ai pas réécouté Daniel Darc. Il m'avait donné plus par sa présence qu'il ne pourrait le faire à travers tous les CD du monde. J'ai compris aussi que je ne pouvais pas rester plus longtemps loin de toi. Sans m'en apercevoir, j'étais déjà arrivé place de la Nation. Je glissais silencieusement sur la surface étale de l'asphalte et je me jouais des bus et des camions qui tous voulaient ma peau. Cliché 18. Rose bonbon. Bande son. Something Good. Par Marianne Faithfull. Woke up this morning feeling fine. There's something special on my mind. Last night I met a new guy in the neighborhood. Oh yeah. Something tells me I'm into something good. He's the kind of guy who's not too shy, and I can tell he's my kind of guy. He danced close to me like I hoped he would. Oh yeah. Something tells me I'm into something good. We only danced for a minute or two. He stuck to me the whole night through. Last night we fell in love. He's everything I'm dreaming of. Me, I'm into something good. prenait un café rue des Fossés-Saint-Bernard, à l'abri d'un parasol, en regardant passer les filles. Il faisait 35 degrés cet après-midi-là. Par cette chaleur, les passants marchaient avec peine, et les filles étaient en sueur, ce qui était terriblement excitant. Mon regard s'attardait quelquefois. Un couple s'est approché, venant de la rue des Écoles. Ils avaient le bon âge, les bons vêtements, étaient minces, sexy, et affichaient une mine sereine. Peut-être avaient-ils foi en l'avenir. Un vrai rêve de publicitaire. Le garçon examinait les DVD qu'il venait d'acheter. Il semblait satisfait de son achat. La fille marchait devant. Elle n'avait pas de DVD à examiner. Néanmoins, elle aussi semblait satisfaite. C'était légèrement agaçant. Même si je devinais ce couple capable de faire des trucs complètement dingues, comme de boire du coca en mangeant des huîtres, pour le moment, ils cachaient bien leur jeu et se contentaient de regarder la devanture d'un magasin de jeux vidéo. Ils finirent par y entrer. Comme deux androïdes parfaitement programmés, ils semblaient réagir à des impulsions d'achat au fil d'un parcours prédéfini. Ces deux morts en sursis au regard vide me ressemblaient finalement beaucoup. Sauf que je n'avais plus envie de leur ressembler. J'avais trouvé un dessin mystérieux dans mon courrier ce matin. Et ce dessin disait quelque chose d'important. Il disait que quelque chose, sans préciser quoi, allait commencer. Il était donc inutile de se résigner à l'ennui et à la mort. Je trouvais dans une de mes poches un morceau de papier et commençais à écrire. Je voulais répondre à l'expéditrice du dessin, lui dire que je commençais à comprendre, que je ne serais plus très long maintenant, que j'allais me mettre en route. Après avoir terminé, je suis resté longtemps à regarder le papier griffonné. Je crois que j'avais bel et bien réussi à formuler ce que je ressentais. Puis, je l'ai rangé dans la poche de ma chemise. J'ai laissé un pot de monnaie sur la table et je suis parti. Ce qui reste beau et mystérieux avec une lettre, c'est qu'on n'est jamais sûr. Jamais sûr qu'on se résoudra à la poster, qu'elle parviendra à son destinataire ou que celui-ci la lira. Mais quelle que soit l'issue, l'attente est foutrement excitante. Yeah. Cliché 19, à la recherche de Mick Taylor. Bande son, Emotional Rescue, par les Rolling Stones. J'ai rêvé de Mick Jagger. Il faisait une visite promotionnelle dans un pub londonien pour le lancement d'un album. Un pub de dimension modeste et assez désert pour tout dire. Les plus jeunes parmi les buveurs ne le reconnaissaient pas. Je leur expliquais, sans susciter de réaction, qui était ce nouvel arrivant. Mick, un peu empâté, paraissait détendu et souriant. Il était vêtu d'un jean délavé assez mal coupé, associé à une élégante veste croisée de couleur grise. Il resta quelques minutes en compagnie d'un groupe de fans, avant de s'isoler dans une salle adjacente, où des septuagénaires enthousiastes l'attendaient pour disputer une partie de billard. Dans le coin du bar où je me tenais, on ne sentait nulle trace d'excitation. J'en étais troublé. Je m'approchais d'une fille et lui parlais de Mick Taylor. Elle ne le connaissait pas, mais écoutait avec intérêt, je crois, malgré son petit ami qui se sentait obligé d'interrompre notre conversation à intervalles réguliers pour la prendre dans ses bras. Il était clair qu'il me compliquait la tâche. J'ai fini par détacher mon attention de la fille. Jagger venait de finir sa partie de billard et retraversait la salle à grandes enjambées. Son départ suscitait la même indifférence que son arrivée. Seuls quelques vieillards, sous le charme de ce sexagénaire encore vif, le saluèrent chaleureusement. La fille s'était enfin arrachée des bras de son petit ami. Elle voulait rattraper Mick Jagger et lui demander les raisons de l'éviction de Mick Taylor. Je l'en dissuadais. Ce sujet l'irritait. Au réveil, j'ai buté sur la pochette d'un vieil enregistrement pirate. Madison Square Garden, 1969. J'ai aussitôt posé le disque sur la platine. Les faces ne comportent aucune indication, juste une étiquette noire. Mais le hasard a voulu que je choisisse celle aux figures Minna Trembler. À la fin de la face, mon ami m'a demandé, stupéfaite, « Mais que leur est-il arrivé ?» Sa question n'appelait pas de réponse. Le groupe que nous venions d'entendre portait le même nom que celui qui avait enregistré Dirty Works et Bridges to Babylon. Je ne comprenais que trop bien ce qu'elle voulait dire.